Rosny est né, le détective espagnol. C'est en 1902, raconta Villard, que ma tante Cornélie se décida à passer dans le monde des mânes et à me transmettre sa défroque. La tante était, de sa nature, fesse-mathieu et misanthrope. Elle ne possédait en bien fond que sa bicoque de Mont-la-Chèvre, plus le jardin attenant. Mais elle détenait une fortune dans son coffre-fort, effarante machine de fer crochée à la muraille, et qui n'eût en somme opposé aucune résistance aux entreprises d'un malandrin pourvu de qu'engins modernes. À Mont-la-Chèvre, il semble qu'il n'y eut pas de malandrin, on n'y rencontre que des mendiants. Ce sont des bandits respectables qui, possédant chacun leur cahute près des remparts, se partagent des positions stratégiques fixes. D'une propreté sordide, si l'on peut dire, ils ont toujours assez de monnaie pour échanger les francs ou même les décimes, ce qui est commode pour les armes bienfaisantes. Quand nous ouvrîmes le coffre-fort, Maître Landouille, son clerc et moi, nous discernâmes des liasses profondes de billets bleuâtres et pédaleux, les uns réjouissants, des tas de réjouissants de titres d'ayant cours, quelques sébiles pleines d'or. Mais jamais je n'ai vu tant de pièces de 100 francs, s'ébahit Monsieur Landouille. Quand, tout compte fait apuré, nous eûmes pris avec le fisc les mesures libératrices, j'écrouais la partie mobilisable de ma fortune dans une valise et m'embarquais pour Paris où j'arrivais sans anicroche. Toute déduction faite, tout droit et honoraire acquitté, je me trouvais détenteur de 537 000 francs, liquides ou semi-liquides, plus la propriété de Cardélie qui valait bien 70 à 80 000 livres. Pour un pauvre diable qui venait de perdre 5 ans à inculquer du latin à des cervelles récalcitrantes, c'était le bonheur. Aussi, lorsque j'atteignis mon logement de la rue Gay-Lussac, me mis-je à danser le pas des pépites. Je ne discernais plus de fin à mon existence. L'argent de la vieille Cornélie reculait la mort jusqu'à ces nébuleuses insondables dont la lumière met, dit-on, plusieurs millénaires avant d'atteindre nos télescopes. Je commençais par insérer la valise dans mon armoire, que je fermais à double tour, puis je devins rêveur. Il était trop tard pour déposer les fonds dans une banque. D'autre part, il était beaucoup trop tôt pour me coucher. D'ailleurs, j'avais faim. L'heure du dîner sonnait dans tous les restaurants du Boulmiche. Je crois que j'hésitais plusieurs minutes. On ne laisse pas volontiers une fortune seule dormir dans un petit logement du 5e. Mais je ne suis pas de nature méfiante, et puis la jeunesse... Bref, je sortis, je me fis voiturer chez le maire, je m'accordai un gueuleton réparateur, quelques verres de Château-la-Rose, la fine champagne et le Havane. L'optimisme enflamma ma voilure et me conduisit jusqu'aux variétés où l'on jouait quelque chose de farce. Au sortir des variétés, je naviguai encore 2 bonnes heures sur les fleuves de Babylone. L'église de Saint-Jacques du Haut-Pas finissait de marmonner ses 3 coups lorsque je descendis de voiture devant mon domicile. J'étais solidement calmé et même là. En débarquant au 5e, j'eus de suite le pressentiment d'une catastrophe. Car, sans attendre l'intervention de ma clé, la porte venait de s'entrouvrir. Hagard, je me précipitais dans ma chambre, allumais une bougie, et ce que j'avais pressenti, hélas, la valise avait disparu. Vous n'attendez pas que je vous décrive mon effondrement, ni ma visite chez le commissaire de police, ni mes rôderies forcenées, ni mon insomnie, ni les idées de suicide qui fourmillaient sous les os de mon crâne, comme les clopards sous une pierre. On m'expédia un inspecteur de la sûreté, lequel fit des hypothèses mémorables, admirables, qui ne coïncidèrent presque avec aucune réalité. 2 jours passèrent, et au matin du 3e jour, le concierge me remit un petit bleu, mais je décachetais sans fièvre, et je lus avec ferveur. « Monsieur, excusez une intervention qui vous paraîtra indiscrète, mais qui peut seule vous sauver. La police ne vous donnera que de fausses espérances. Si vous voulez faire le sacrifice de 30 000 francs, présentez-vous ce soir à 6 heures derrière le Panthéon. La valise vous sera rendue contre quittance. Seulement, soyez seul. Si vous aviez le malheur de souffler un mot aux ânes de la préfecture, vous ne reverriez pas un maravedi de votre fortune, qui dès demain aurait quitté à jamais le sol de la France. Veuillez me croire, monsieur, votre très humble et fort obéissant serviteur, Francisco Miramon, détective espagnol. » Comme de juste, je fus à plusieurs reprises sur le point de livrer le télégramme à la police. Mais chaque fois, je relisais la menace finale et je reculais. Si bien que je me trouvais à la place indiquée, plus ému qu'à mon premier rendez-vous d'amour. L'endroit, comme vous savez, est généralement désert, surtout le soir. Il avait plu, et à peine s'il passa 2 individus pendant les 5 minutes de mon attente. Je commençais à désespérer lorsqu'un bruit léger me fit tourner la tête. Un petit homme, bistre, enveloppé d'un vaste paletot, se tenait devant moi. Il tira son chapeau, jeta autour de lui des regards agiles et marmonna « Je suis le détective espagnol !» Je le considérais avec stupeur. Il souriait. « De la loyauté et de la vitesse, il s'agit d'une bonne action. C'est un honnête homme qui vous a emprunté votre valise. Si vous signez ce que je vais vous remettre, il restera un honnête homme et vous resterez riche. Et si vous ne signez pas, il deviendra un voleur et vous vous deviendrez pauvre. Quelle chose dans une petite signature !» Je n'eus pas la force de répondre. Je me bornai à faire un signe. Il tira prestement un papier et un autre de sa poche. « Voilà la décharge, fit-il, lisez !» C'était une sorte de quittance par quoi je reconnaissais d'avoir payé 30 000 francs les services éminents que m'avait rendu Francisco Miramon. « Signez !» fit-il avec douceur. Et tout de suite après, il y aura 2 hommes heureux. Après tout, que risquais-je? Je saisis la plume d'une main tremblante et je signai. Alors le petit homme déboutonna son paletot et en estorqua 2 énormes paquets cachetés qu'il me remit. Pendant que je les considérais avec un mélange de stupeur, d'espoir et d'incrédulité, le détective espagnol s'évanouit comme un fantôme. D'ailleurs, il ne m'avait aucunement trompé. Or, les 30 000 francs de récompense, ma fortune était intacte. 3 jours plus tard, je reçus une petite boîte qui contenait une corde avec un nœud coulant et un billet ainsi conçu. Voici la corde à l'aide de laquelle, sans votre intervention généreuse, l'honnête homme aurait été réduit à se pendre. Elle vous portera bonheur. Le détective espagnol.